Musicopolis. Paris, rue de la Harpe. Au XVIe siècle, les deux rives de la Seine à Paris sont très différentes. La partie de la ville qui se trouve sur la rive droite, avec l'hôtel de ville, les halles, le Louvre, les quartiers marchands, est deux fois plus étendue que celle de la rive gauche. Rive gauche, c'est le quartier latin. Non pas que tout le monde y parle latin, mais au moins les étudiants et les maîtres de la Sorbonne et des collèges qui bordent la limite sud de la ville, vers les portes Saint-Michel. Au centre de Paris, entre les deux rives, l'île de la Cité, avec le palais, la Sainte-Chapelle, l'Hôtel-Dieu et la monumentale cathédrale Notre-Dame. Pour aller de la Cité jusqu'aux portes Saint-Michel, vous devez emprunter la grande rue de la Harpe et marcher environ 800 mètres avant d'atteindre les remparts. Rue de la Harpe, c'est la rue des libraires et des imprimeurs, la rue où tient boutique Pierre Attaignan, qui publie en 1530 son premier livre de danse. Pas étonnant, bien sûr, de trouver libraires et imprimeurs dans le quartier de l'Université de Paris. Encore aujourd'hui, le long du boulevard Saint-Michel et dans les rues adjacentes, se succèdent librairies, marchands de livres d'occasion et marchands spécialisés dans une discipline ou une autre. Au début du XVIe siècle, sous le règne de Louis XII, deux imprimeurs prospèrent, Philippe Pigouchet et Poncet Lepreux. Ils surfent sur cette nouvelle vague des volumes imprimés dont l'invention ne remonte jamais qu'à une cinquantaine d'années. C'est chez Philippe Pigouchet que le jeune Pierre Attaignan, arrivé de Douai, vient faire son apprentissage. Pierre Attaignan est né en 1494, c'est presque sûr. 1494, c'est aussi l'année de naissance de François Ier et de Rabelais. On ne sait pas grand-chose sur l'origine et la formation de Pierre Attaignan, si ce n'est qu'en 1514, dans un acte notarié, il est décrit comme libraire, vivant à Paris. Ce jour-là, il donne en location une presse et de nombreux ustensiles d'imprimerie à un certain Laroche, qui devra en échange imprimer pour lui certains travaux. On sait qu'il épouse à cette époque Claude Pigouchet, la fille de l'imprimeur. Sa première publication conservée est un bréviaire pour le chapitre de Noyon. En 1525, lorsqu'il publie son premier volume, Pierre Attaignan a une trentaine d'années. Le roi régnant est à présent François Ier, roi humaniste qui voudrait faire rayonner les arts et s'inspire pour cela de la Renaissance italienne. Si ce n'est pas un roi particulièrement musicien, Du moins, est-il attentif à ce que sa grandeur royale passe par tous les arts, parmi lesquels la musique. À côté de l'écurie et de la chapelle, il fonde donc la musique de la chambre. Il est probable qu'un grand roi comme lui, qui a beaucoup fréquenté l'Italie en y faisant la guerre, est au courant de ce qui se passe à Venise depuis le début du siècle, à savoir la publication de volumes de musique. Ottaviano Petrucci est le premier à Venise à avoir imprimé de la musique, un demi-siècle après l'invention de Gutenberg. Les livres qui sortent de son officine sont magnifiques. Il passe une première fois le papier dans la presse pour imprimer les portées, puis une deuxième fois pour les notes et encore une pour le texte. C'est très beau et très coûteux. Le jeune Athénien à Paris a certainement connaissance de ces volumes. Et il n'est pas sans remarquer que dans la capitale de France, on n'a pas encore publié de musique. Les riches amateurs qui veulent se procurer des partitions doivent acheter à prix d'or des manuscrits recopiés à la main. Athénien réfléchit, j'imagine. Non seulement à cette carence d'édition, mais aussi au fait que le répertoire français est très à la mode. Certes, Petrucci publie à Venise, mais son premier volume de 1501 a été consacré à la chanson française. Pendant tout le siècle, cette chanson sous toutes ses formes va se répandre en Europe. On la chante, mais aussi on la joue aux instruments, on l'orne, on la brode, aux luths, à la flûte, à l'épinette, à l'orgue, à la viole. Donc, se dit Athénien, j'imagine toujours, il y a un marché pour la musique imprimée en ce début de XVIe siècle en France, mais pas d'imprimeur. Notre homme est de toute évidence extrêmement ingénieux puisqu'il met au point un nouveau système d'impression. Au lieu de passer plusieurs fois le papier sur la presse, comme Petrucci à Venise, ou de graver des planches de bois, tâches longues et fastidieuses, comme Antico à Rome, Attaignan, qui maîtrise la fonte des métaux, décide de fondre des petits éléments qui comprennent tout ensemble un petit morceau de portée, les lignes pour écrire la musique, et une note. Lorsque les caractères sont mis les uns à côté des autres, on voit se dessiner la suite de notes et on a l'illusion d'une portée continue. Alors bien sûr, si on y regarde de très près, on voit un peu que la ligne est faite de petits morceaux. Mais la technique est beaucoup plus rapide à mettre en œuvre que celle des Italiens et par conséquent, beaucoup moins coûteuse. Le premier volume de musique d'Attaignan sort de ses presses en 1528. Il est entièrement consacré aux chansons de maître Clément Jeannequin, nouvellement et correctement imprimé. Le deuxième volume, avec des chansons nouvelles en musique à quatre parties, comprend davantage de compositeurs. À côté de Jeannequin, on trouve Jacotin, Sermizy, Vermont et quelques anonymes. L'année suivante, 1529, ça y est, Attaignan est lancé. Il est probable que son commerce marche bien puisqu'il publie 10 volumes. 7 sont des recueils de chansons, encore, et 2 sont des motets, de la musique religieuse. Il en faut aussi pour les pieux amateurs qui chanteront S maison et pour les chantres des églises. Le 10e volume répond certainement à une demande. Il faut que les amateurs apprennent à utiliser les recueils. Très brève et familière introduction pour entendre et apprendre soi-même à jouer toute chanson réduite en la tablature du luth et la manière d'accorder le dit luth. Après tous ces volumes de chansons, décidément le genre le plus à la mode en ce Paris des années 30 du XVIe siècle, Attaignan innove encore. Voici qu'il publie 18 basses denses garnies de recoupes et de tordions avec 19 branles, 4 sauterelles, 15 gaillardes et 9 pavanes. Le tout réduit en la tablature du luth, en date du 1er février 1530. Et la même année, encore un autre volume avec encore basses denses, branles, pavanes et gaillardes, cette fois à 4 parties. Et puis encore un autre recueil qui mêle des danses et des chansons. Il y en a pour tous les goûts, on n'arrête pas le progrès. On ne connaît pas exactement le rôle de Pierre Attaignant dans ses publications. Est-il seulement l'imprimeur ou plutôt le compilateur et l'ordonnateur des volumes? Est-il également arrangeur? Est-ce qu'il prend part à la transformation des chansons lorsqu'il les donne, par exemple, en tablature de luth? Ce qu'on sait de façon certaine, c'est que le droit d'auteur n'existe pas à cette époque. Garde-t-il tout le revenu de ses ventes pour lui? Ou bien en distribue-t-il une partie au compositeur? Par exemple, à Jeannequin, lorsqu'il édite un volume de chansons. Mais qui fait donc de la musique à l'époque de Pierre Attaignant? Eh bien, apparemment, beaucoup de gens. La musique tient une grande place dans la vie des gens, quelle que soit leur propre place dans la société. Remarquez, c'est encore le cas aujourd'hui. Pouvez-vous dire un jour que vous n'avez entendu aucune musique? Il y en a dans les magasins, à la radio, sur Internet, etc. Au début du XVIe siècle, la musique est un divertissement intime chez les grands personnages et chez les gens aisés, qui vont pouvoir apprendre à chanter ou à jouer d'un instrument avec un maître de musique. Nombreux sont ceux qui peuvent s'acheter des familles d'instruments. Le bois et la main-d'œuvre sont bon marché, ce qui fait qu'une famille de flûte ou de viol coûte moins cher que des vêtements. Les gens du peuple, en ville ou à la campagne, eux, chanteront. La tradition orale transmet de génération en génération des chansons qu'on fredonne en berçant son enfant, qu'on chante à plusieurs en faisant la lessive au bord de la rivière, qu'on clame pendant les travaux des champs et qui peuvent même servir à faire danser. Mais ça, c'est si vraiment on ne peut pas se payer de musicien. La musique est omniprésente dans la vie des habitants du XVIe siècle. S'ils le peuvent, ils se paieront les services de musiciens, les ménétriers. Ceux-ci se forment en étant apprentis chez un maître, comme n'importe quels artisans. Ils sont organisés en corporations, et le jeune qui termine son apprentissage doit passer un examen devant ses pairs, après quoi il aura le droit de jouer dans les bals, les banquets et autres divertissements publics ou privés. Les danseries de Pierre Athénian sont certainement un reflet de ce que pouvaient proposer alors les ménétriers et nous laissent imaginer ce qu'on dansait à l'époque de François Ier et de son fils Henri II. Tourdion, extrait du deuxième livre de danserie de Pierre Athénian, l'ensemble Douce Mémoire, dirigé par Denis Raisin-Dadre. Tout le programme, la réécoute et le podcast de cette émission sont bien sûr sur francemusique.fr, sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Claire Lagarde pour la réalisation, Catherine Déretté pour le mixage et Françoise Monteil pour les recherches et le site.